On va parler d'affaires internationales avec Donald Cuccioletta. Bonjour, Donald.
Bonjour, Louis.
Alors, commençons évidemment avec les États-Unis, toujours le cas. Une victoire pour les Républicains dans l'élection spéciale pour la Chambre des représentants.
Oui, en Ohio. Le candidat du Parti républicain, M. Balderson, 50,2%, puis le démocrate, Danny O'Connor, 49,3%.
C'est serré quand même?
Très serré. Mais évidemment, les Républicains réclament victoire, évidemment. Ils ont gagné quand même 50,2%. Ouais. Mais les démocrates aussi, parce que les démocrates ont besoin d'une victoire, c'est évident, parce que de plus en plus, les sondages indiquent que même s'ils ont l'avantage, même pour gagner probablement le Sénat, il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils ne gagneront pas le Sénat. Donc, ça veut dire tout l'argent qu'ils dépensent aussi au niveau de la Chambre des représentants.
Ouais.
Puis dans le cas de l'Ohio, ils ont doublé la mise. Ça veut dire que les Républicains ont dépensé X, les autres, ils ont dépensé deux fois X.
Okay.
Ça veut dire que les démocrates avaient besoin de cette victoire-là. Donc, c'est sûr qu'à 49,3%, c'est quand même quelque chose d'assez important, mais encore là, ils ont perdu. Mm. La question se pose, est-ce que c'est une victoire pour, finalement, la politique de Donald Trump? Bon, il y a certains républicains qui disent oui. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je me dis, c'est surtout une victoire pour le Parti républicain.
Ouais.
Le Parti républicain a besoin de gagner ses élections à la mi-mandat, parce que c'est eux qui sont en cause au niveau du Sénat puis à la Chambre des représentants. Puis non seulement ils doivent gagner le Congrès, puis la majorité aussi, c'est parce que finalement, ils sont capables à ce moment-là de confronter M. Trump si jamais ils ne sont pas d'accord avec certaines de ses politiques pendant les deux dernières années de son mandat. Donc c'est ça, je pense. Les républicains
ouais.
savent très bien, ça c'est important. Parce qu'à ce moment-là, en perdant le Congrès, que ce soit le Sénat, puis éventuellement, probablement, je ne pense pas, mais néanmoins, s'ils perdent la Chambre des représentants, ça veut dire, face à Donald Trump, les républicains sont complètement hors la carte, et là, c'est les démocrates qui contrôlent tout, puis là, c'est la guerre, etc., etc., qui va s'enclencher. Donc, eux autres, pour voir 2020, parce qu'on pense déjà à 2020 dans ces parties-là, c'est de s'assurer que les républicains sont solides, que si jamais, finalement, M. Trump, ils sont capables de le confronter sur certaines politiques, puis l'ont fait durant toutes les deux premières années, hein,
mm-hmm.
c'est clair, ils n'ont pas donné carte blanche, finalement. Puis il ne faut jamais oublier en 2020, derrière tout ça, il y a l'ombre de Paul Ryan, puis de plus en plus on entend ouais. des rumeurs que ça se peut qu'il revienne en 2020.
OK.
Fait que vous voyez, tout ça se joue, c'est la politique américaine.
Ouais.
Mais il faut voir que je pense que oui, les républicains ont gagné, mais la bataille reste encore pour le Michigan, le Tennessee, le Kentucky. Il y a au moins 5-6, puisque probablement, au niveau du Sénat, les démocrates ont une chance de gagner.
Bon, 2020, ça s'en vient quand même assez rapidement.
Oh, ça vient vite, je veux dire. Et l'élection au mois de novembre, puis la journée d'après, on va commencer déjà à parler de 2020.
Exact. Puis, mais les démocrates, parce que là, on sait que Donald Trump veut se représenter en 2020.
Oui.
Les démocrates, eux, ils en sont où? Et ça commence quand?
C'est que les démocrates ont déjà commencé, mais est-ce que le parti est uni? Non. Présentement, au sein du parti, il y a des éléments, on peut dire les jeunes, les moyennes d'âge et 40 ans, qui veulent donner une nouvelle image au parti, qui veulent retourner un peu un parti de centre-gauche, comme ils étaient depuis Franklin Delano Roosevelt. Mais c'est un parti qui est devenu centre-droite sous le contrôle des Clinton. Puis les Clinton contrôlent encore le parti aujourd'hui avec Mme Nancy Pelosi puis Charles Schumer, le sénateur de l'État de New York, qui lâche pas prise. Donc, finalement, il y a une lutte au sein du parti qui fait que, finalement, ça divise. Et tout le monde est prêt à dire, peut-être pas à l'intérieur des officines du parti, mais de l'extérieur, puis même certains députés, certains membres de la Chambre des représentants, certains sénateurs disent, il faut qu'on ait du sang nouveau. Il faut reconstruire ce parti-là pour l'avenir. Et c'est ça qu'ils ne font pas présentement.
OK, donc arrêtez. Ils ne veulent pas bâtir sur des figures qui sont déjà connues. On l'a essayé, entre autres...
À deux reprises. Mme Clinton.
Exact.
Ça n'a pas fonctionné. Puis il paraît aussi dans la population, on est fatigué de Bill Clinton aussi.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière Mme Clinton, il y a toujours Bill Clinton. Puis Bill Clinton, il y a beaucoup de monde au sein du gouvernement américain puis au sein des différents États qui leur doivent la job à M. Bill Clinton. Il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, ça fait que finalement, mais ça divise le parti. Ce n'est pas un parti uni. Qui est le chef du Parti démocrate aujourd'hui?
Oui.
On ne trouve pas.
On ne sait pas qui. Ça, ouais.
On n'a pas de grand porte-parole. À moins qu'on veuille choisir Bernie Sanders. Mais c'est clair qu'avec les Clinton au pouvoir, c'est clair que M. Bernie Sanders est persona non grata.
Oui, mais en plus, ça ferait vraiment tout un... J'allais utiliser le mot clash, là.
Oui, oui.
Entre Donald Trump et Bernie Sanders, il y a un monde, hein?
Ah, il y a tout un monde. Tout un monde. Donc, c'est tout ça qui est encore à jouer. Mais écoute, même les démocrates, il y en a qui disent le retour de Joe Biden pour 2020.
Ah oui, hein?
Mais écoutez, là, ça va être sa troisième fois, là.
Ouais.
Puis Joe Biden, bon, j'ai rien contre l'âgisme, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience, mais quand, à quelque part, ça prend un peu la jeunesse au sein, ouais, du parti, puis ça prend vraiment un candidat qui a de l'avenir, etc., puis qui est assez jeune, puis qui amène des nouvelles idées, c'est ça que ça prend. La défaite de Mme Clinton, selon moi, le message pour les démocrates, c'était ça.
OK. Bon, parlons de l'Amérique du Sud, le Sénat, oui, de l'Argentine qui vote aujourd'hui sur la légalisation pour le droit à l'avortement.
Oui, effectivement. Ouais. Ça fait déjà 10 ans que les femmes en Argentine, surtout le mouvement féministe, se battent pour ça. C'est aujourd'hui que le Sénat prend le vote. Il semble que ça va passer.
Oui.
Même sous un président qui est assez à droite et très catholique et qui lit le catéchisme à tous les jours.
Ah oui, hein?
Ah oui, l'Argentine... L'Église est encore extrêmement puissante. Il ne faut, ouais, pas oublier, finalement, que même le pape,
ben oui,
Jean-François, il vient de l'Argentine.
Exactement.
Et que lui-même a envoyé une lettre en disant qu'il était contre, qu'il ne voulait pas que ça passe. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ça joue beaucoup encore au sein de la politique, mais il se prend que ce soit ici, parce que M. Macri, qui est le président, Mauricio Macri, même s'il est de droite, même s'il est conservateur, très catholique, etc., les chiffres sont pas bien bons présentement pour lui. C'est vraiment à la baisse. Okay. Donc, probablement, avec cette victoire-là du Sénat, puis il va falloir qu'il fasse finalement des compromis, puis ça, c'en est un compromis, puis on verra jusqu'où ça va aller. Mais c'est quelque chose de très important pour l'Argentine, mais oui, pour le reste de l'Amérique latine aussi.
Ben oui, je comprends.
Où tout ce droit-là, le droit à l'avortement, est toujours mis en cause. L'Église catholique est encore extrêmement forte en Amérique du Sud, puis l'Amérique latine en total, qui fait que finalement, c'est une mini-révolution tranquille qui se passe présentement en Argentine. Ouais.
Bon, et en Italie, pendant ce temps, ben, sous la gouverne du ministre du Travail, Luigi Di Maio, le mouvement populiste 5 étoiles, le gouvernement italien adopte une loi pour limiter les contrats à durée déterminée.
Oui, tout à fait. Il y avait ça qu'il avait basé sur l'ancien régime pour aider le patronat. Ils le disent ouvertement. Mais là, finalement, l'élection de 5 étoiles avec l'appui de la Ligue du Nord, tout le monde s'attendait à quand est-ce qu'il y aurait une législation marquante pour ce gouvernement-là, parce qu'on sait toujours que c'est un gouvernement de coalition. Puis en Italie, on ne sait jamais combien de temps que ça va durer des gouvernements de coalition, n'est-ce pas? Donc, pour l'instant, ils sont encore là. Mais la personne qui a mené ça, c'est vraiment le ministre du Travail, Luigi Di Maio, qui est un des chefs de file du 5 étoiles. Et donc, c'est une législation qui a passé. C'est très important. C'est probablement la législation la plus importante qu'ils ont passée dans ce gouvernement dit populiste. Et ça va tout chambarder aussi le milieu du travail. Ça veut dire les contrats finalement à courte durée ou déterminés vont être abolis. Puis en plus de ça, finalement, on va revenir un peu à les règles du jeu du passé. D'ailleurs, c'était une des promesses, justement, le mouvement populiste 5 étoiles. Donc, on voit dans cette direction-là. Là, on verra si la contre-attaque des chrétiens démocrates va se faire sentir au sein de la population italienne. Mais néanmoins, c'est une victoire pour le 5 étoiles. Puis finalement, on peut se poser la question jusqu'à où ils sont prêts à aller. Parce que c'est quand même des gouvernements chancelants, des gouvernements minoritaires en Italie.
Ouais.
On ne sait jamais quand tout ça peut tomber. Puis que, d'ailleurs, on avait prédit après les élections et l'alliance entre la Ligue du Nord puis les 5 étoiles, que dans 2 mois, on devrait avoir des élections. Imaginez-vous. Donc, celle-là a passé, on verra à l'autre. Et je pense à chaque fois qu'il avance la législation, c'est la question se pose. Est-ce que ça passe, ça passe pas? Et si ça passe pas, bien, c'est clair que le président du pays, à ce moment-là, va demander des élections.
Ben oui, bien sûr. Mais c'est quoi les contrats à durée déterminée en quelques secondes?
C'est que ça veut dire que vous avez un contrat que vous avez signé 6 mois,
c'est
fini. Ça veut dire que vous n'avez jamais de permanence.
OK.
Jamais de permanence. Tandis qu'en Italie, avant, la permanence était garantie.
OK.
Et quand on enlève ça, ça veut dire, c'est en enlevant ça, on a donné ça au patronat italien de dire, ben, on t'engage 6 mois, puis ça, on te laisse, pour toutes sortes de raisons, là.
Mm-hmm.
Sans des bonnes ou mauvaises raisons, on te laisse, puis on en prend une autre. Ça veut dire, c'est pas avoir la permanence, d'une part, syndicale, deuxièmement, la permanence, les fonds de pension, etc., 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 là. Donc, c'est vraiment à temps partiel constant. Ouais. Tandis que dans le passé, en Italie, quand on trouvait un emploi, déjà, c'était garanti.
OK, donc ça change tout complètement,
change
le portrait
tout.
De l'emploi.
Ça ouais. change tout. Puis effectivement, ouais. Le 5 étoiles, le mouvement populiste 5 étoiles avait dit, une des critiques, justement, c'est que les gens qui travaillent, travaillent pour un bout de temps, après ça, ils sont jugés ouais. morts, ça coûte beaucoup de cher, et ils n'ont pas de fonds de pension, etc., etc. Fait que là, on revient à ça. Donc, hey, eux autres, c'est un des remèdes qu'ils ont mis ouais. d'avant pour l'économie.
Hey, merci, Donald. À demain.
Salut.
Au revoir.
Bye.
Donald
Bye.
Cucelletta, Nouvelle Internationale.